Passons maintenant à la première partie de l'émission avec un texte de Platon.
Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent. Suivons-les et regardons où l'un et l'autre les mènent le désir. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, poussé par le besoin de l'emporter sur les autres. C'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que par loi et par force on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'il recevait le pouvoir qu'eut jadis, dit-on, l'ancêtre de Gigès le Lydien. Cet homme était un berger au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, le sol se fendit et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit et, entre autres merveilles que la fable énumère, il vit un cheval d'airain creux, percé de petites portes. S'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, semblait-il, que celle d'un homme, et qui avait à la main un anneau d'or dont il s'empara. Puis il partit, sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers qui se tenaient chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se rendit portant au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main. Aussitôt, il devint invisible à ses voisins, qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Étonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors et, ce faisant, redevint visible. S'étant rendu compte de cela, il répéta l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir. Le même prodige se reproduisit. En tournant le chaton en dedans, il devenait invisible, en dehors, visible. Dès qu'il fut sûr de son fait, il fit en sorte d'être au nombre des messagers qui se rendaient auprès du roi. Arrivé au palais, il séduisit la reine, complota avec elle la mort du roi, le tua et obtint ainsi le pouvoir. Si donc il existait deux anneaux de cette sorte, et que le juste reçut l'un, l'injuste l'autre, aucun, pense-t-on, ne serait de nature assez adamantine pour préserver dans la justice et pour avoir le courage de ne pas toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait prendre sans crainte ce qu'il voudrait sur l'agora, s'introduire dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres et faire tout à son gré, devenu l'égal d'un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, rien ne le distinguerait du méchant. Ils tendraient tous les deux vers le même but. Et l'on citerait cela comme une grande preuve que personne n'est juste volontairement, mais par contraire, la justice n'étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. Tout homme, en effet, pense que l'injustice est individuellement plus profitable que la justice, et le pense avec raison d'après le partisan de cette doctrine.
Minos, dit Dédale, peut bien m'empêcher de partir par la terre et par la mer, il ne peut me fermer le ciel. C'est par là que nous passerons. Ayant ainsi parlé, il se met à imaginer des techniques nouvelles pour vaincre les lois de la nature. Il dispose des plumes, les unes à côté des autres, de la plus courte à la plus longue, comme les tuyaux d'une flûte de Pan. Puis il les attache, au milieu avec du fil de lin, au bout avec de la cire. Enfin, il les courbe légèrement pour imiter les ailes des vrais oiseaux. Le jeune Icare se tient à ses côtés. Il s'amuse à attraper au vol les plumes emportées par le vent, ou bien à amollir de la cire avec son pouce, sans savoir qu'il joue avec les instruments de sa mort. Une fois son ouvrage terminé, Dédale fait quelques essais pour se maintenir en l'air et garder son équilibre. Puis il donne à son fils les consignes suivantes. « Icare, quand tu voleras, tiens-toi à mi-hauteur. Si tu descends trop bas, l'humidité de la mer alourdira tes ailes. Si tu montes trop haut, le soleil les brûlera. Vole entre les deux. Prends-moi pour seul guide. » Pendant qu'il fait ses recommandations et ajuste aux épaules d'Icare les ailes qu'il a fabriquées pour lui, ses joues se mouillent de larmes et ses mains se mettent à trembler. Puis il embrasse son fils et d'un coup d'aile, il s'élève dans les airs, encourage Icare à faire de même et lui apprend l'art de voler. Ils prennent la direction de la mer, le père jetant vers son compagnon des regards inquiets, comme l'oiseau qui emmène hors du nid ses petits pour la première fois. Un pêcheur à la ligne, un berger appuyé sur son bâton et un laboureur tenant le manche de sa charrue les aperçoivent dans le ciel. Stupéfaits de voir des hommes capables de voler, ils les prennent pour des dieux. Tandis que Dédale et son fils passent au-dessus des îles de Samos, de Lébynthos et de Calymné, l'enfant, grisé par le plaisir de voler, cesse de suivre son père et s'élève plus haut dans le ciel. Mais la chaleur du soleil fait fondre la cire, qui fixe les plumes, et Icare, maintenant privé de ses ailes qui lui servaient à ramer dans l'espace, agite inutilement ses bras nus. Sa bouche crie encore le nom de son père lorsqu'il est englouti dans la mer qui porte désormais son nom. Son malheureux père, un père qui ne l'est plus, arrive en criant. « Icare, Icare, où es-tu? À quel endroit dois-je te chercher ?» C'est alors qu'il aperçoit des plumes qui flottent sur l'eau.
Enchanté de vous connaître.
Enchanté, moi aussi.
Entrez, entrez, c'est par ici. Tenez, asseyez-vous, faites comme chez vous.
Merci.
Rafraîchissez-moi la mémoire. Vous étiez intéressé par un souvenir de...
Mars.
Ah oui, Mars.
Il y a un problème?
Pour être vraiment franc avec vous, Doug, si ce qui vous branche, c'est la Terre sidérale, ce qui vous plairait beaucoup plus, c'est une de nos croisières sur Saturne. Tout le monde en raffole.
Ça ne me dit rien du tout, Saturne. J'ai dit Mars.
Ok. Le client est roi. Mars et rien d'autre. Bon, voyons voir. Le forfait sans option pour Mars vous coûtera 899 crédits. Ça, c'est pour 2 semaines complètes de souvenirs. Précis jusqu'au moindre détail. Pour un voyage plus long, c'est un peu plus cher parce que l'implant est plus profond.
Et c'est quoi le forfait, 2 semaines?
D'abord, laissez-moi vous dire une chose, chez Recall, c'est du souvenir premier choix qu'on vous propose. Cabine individuelle dans la navette, somptueuse suite au Hilton, visite guidée, le Mont Pyramide, le Grand Canal et bien entendu, Vénusville.
Oui, mais franchement, ça a l'air vrai.
Aussi vrai que n'importe lequel de vos souvenirs.
Oui, ne vous foutez pas de moi.
Ah non, je vous assure, votre cerveau ne fera aucune différence. C'est garanti, vous êtes remboursé.
Et le mec que vous avez lobotomisé, il a été remboursé.
Ça, c'était le Moyen-Âge. De nos jours, quand on voyage avec Recall, on risque moins qu'en prenant une fusée. Regardez ces statistiques. Et en plus de vraies vacances, c'est l'horreur la plus complète. On a un temps dégueulasse, les valises se perdent, les taxis vous arnaquent. Quand vous voyagez avec Recall, tout est parfait. Alors, ça vous dit?
Ça marche.
Bien joué. Et pendant que vous remplissez ce questionnaire, je vais vous présenter quelques-unes de nos options.
Pas d'options.
Comme vous voulez. Je vais quand même vous poser une question. Dites-moi, quel est le seul et unique point commun à toutes les vacances que vous ayez jamais prises?
Là, je vois pas.
C'est vous! Vous ne changez pas! Peu importe où vous allez, où vous êtes, c'est toujours le même vous! Si je peux vous donner un conseil, partez en vacances loin de vous. Oui, je sais, ça paraît extravagant. C'est le dernier cri du tourisme, on appelle ça la croisière éco.
Oh non, ça ne me dit rien du tout.
Ça vous emballerait, j'en suis sûr. Nous vous proposons un éventail d'identité de rechange à endosser le temps d'un voyage. Alors pourquoi aller visiter Mars en tant que touriste quand vous pouvez être un playboy, un sportif célèbre ou un...
Agent secret. C'est combien, agent secret?
Ah, laissez-moi vous allécher. Vous êtes un espion de premier plan opérant avec une couverture en béton. C'est votre mission la plus importante. Vos ennemis veulent vous tuer. On vous tire dessus de partout. Vous tombez sur une magnifique créature exotique.
Continuez.
Oh, je ne veux pas vous gâcher le plaisir, Doug. Mais vous pouvez être sûr qu'avant la fin du voyage, vous emballez la fille, vous tuez les méchants et vous sauvez toute la planète. Alors, dites-moi, vous ne trouvez pas que ça vaut 300 malheureux crédits?
16 avril. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, mais je suis encore en colère à la pensée que les gens ont toujours ri de moi et se sont toujours moqués de moi. Lorsque je serai devenu aussi intelligent que le dit le professeur Némur, avec un QI qui sera plus du double du QI 70 qui est le mien, peut-être qu'alors les gens m'aimeront et seront mes amis. Je ne sais pas exactement ce qu'est un QI. Le professeur Némur dit que c'est quelque chose qui mesure l'intelligence que l'on a, comme une balance au magasin mesure combien pèse une chose en kilos. Mais le docteur Strauss a eu une grosse discussion avec lui et a dit qu'un QI ne pèse pas du tout l'intelligence. Il dit qu'un QI indique jusqu'où peut aller votre intelligence, comme les chiffres sur un verre à mesurer. Encore faut-il remplir le verre avec quelque chose. Quand j'ai interrogé Burt Seldon, qui me fait passer mes tests d'intelligence et qui travaille avec Algernon, il a dit qu'il y a des gens qui diraient que Némur et Strauss sont dans l'erreur et que d'après ce qu'il a lu sur le sujet, le QI mesure un tas de choses différentes, y compris certaines des choses que vous avez déjà apprises et que ce n'est pas vraiment du tout une bonne mesure de l'intelligence. Je ne sais donc toujours pas ce qu'est un QI, et tout le monde en donne une définition différente. Le mien est d'environ 100 actuellement. Il va bientôt dépasser 150, mais il faut encore qu'il m'emplisse avec quelque chose comme le verre à mesurer. Je n'ai rien voulu dire, mais je ne vois pas. S'ils ne savent pas ce que c'est, ni où c'est, comment ils peuvent savoir combien on en a? Le professeur Némur dit que je dois passer un test de Rorschach après-demain. Je me demande ce que c'est. 31 juillet. Je suis au bord du précipice, je le sens. Ils pensent tous que je me tue en travaillant à cette allure. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je vis à un sommet de clarté et de beauté dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Chaque partie de moi-même est en parfaite harmonie avec ce travail. Je m'en imprègne par tous les pores durant le jour et la nuit. Dans les instants qui précèdent ma chute dans le sommeil, les idées explosent dans ma tête comme un feu d'artifice. Il n'y a pas plus grande joie que l'éclatement d'une solution à un problème. Il est incroyable que cette énergie bouillonnante, cet enthousiasme qui anime tout ce que je fais puisse m'être enlevé. C'est comme si toutes les connaissances que j'ai absorbées au cours des derniers mois se combinaient pour me soulever vers un apogée de lumière et de compréhension. C'est la beauté, l'amour et la vérité réunis. C'est la joie. Et maintenant que j'ai trouvé cela, comment pourrais-je l'abandonner ? La vie et le travail sont ce qu'un homme peut avoir de plus merveilleux. Je suis épris de ce que je fais parce que la solution du problème est là, dans mon cerveau, et que bientôt, très bientôt, elle éclatera dans mon esprit. Je prie Dieu de me laisser résoudre cet unique problème. C'est sa solution que je désire. Je n'en veux pas d'autre. Si je ne l'obtiens pas, j'essaierai d'être reconnaissant de ce que j'ai eu. Le nouvel ami de Faye est un professeur de danse du Stardust Ballroom. Je ne peux vraiment pas lui en vouloir puisque j'ai si peu de temps à passer avec elle. 11 août. Impasse complète depuis 2 jours. Rien. J'ai pris un mauvais tournant quelque part, car je trouve des réponses à des tas de questions, mais pas à la plus importante de tous. En quoi la régression d'Algernon affecte-t-elle l'hypothèse de base de toute l'expérience ? Heureusement, j'en sais assez sur les processus de l'esprit pour que ce blocage ne m'inquiète pas outre mesure. Plutôt que de m'affoler ou d'abandonner, ou, ce qui serait pire, de m'acharner à chercher des réponses qui ne viennent pas, il faut que je chasse ce problème de mon esprit pendant un moment et que je le laisse mijoter. Je suis allé aussi loin que je peux sur le plan conscient, et maintenant il s'agit d'affronter ces mystérieuses opérations qui se déroulent au-dessous du niveau de la conscience. C'est quelque chose d'inexplicable de constater à quel point tout ce que j'ai appris me renvoie à ce problème. S'y acharner trop ne fait que le bloquer. Combien de grands problèmes sont restés non résolus parce que les chercheurs n'en savaient pas assez ou n'avaient pas suffisamment confiance dans le processus de créativité ni en eux-mêmes pour laisser tout leur cerveau y travailler. 2 septembre. Rien encore de bien défini. Je marche dans un grand silence de lumière blanche. Tout autour de moi est en attente. Je rêve que je suis seul au sommet d'une montagne, que je contemple le panorama. Des verts, des jaunes et le soleil à la verticale qui réduit mon ombre à une boule resserrée autour de mes pieds. Quand le soleil baisse dans le ciel de l'après-midi, l'ombre se déroule et s'étire vers l'horizon, longue et mince, loin derrière moi. Je tiens à répéter ici ce que j'ai déjà dit au docteur Strauss. Personne n'est à blâmer en quoi que ce soit de ce qui est arrivé. L'expérience a été minutieusement préparée, largement essayée sur des animaux et validée statistiquement. Lorsqu'ils décidèrent de se servir de moi pour le premier essai humain, ils étaient raisonnablement certains que cela n'entraînerait aucun danger physique. Il n'existait aucun moyen de prévoir les risques psychologiques. Je ne veux pas que quiconque ait à pâtir de ce qu'il m'arrive. ne reste à présent qu'une seule solution. Qui puis-je espérer conserver ?
Un cœur artificiel peut représenter la plus importante décision de toute votre vie. Alors venez nous voir et consultez un de nos chirurgiens qualifiés. Ici au centre familial du cœur, nous vous présenterons toute la collection Jarvik, la série cardiosport conçue par Jensen et les Yamaha. Choisissez votre cœur. Multiples garanties, crédit total, abattements fiscaux très intéressants. C'est d'abord votre santé qui nous tient à cœur.
Suivez-moi bien. Il va falloir me discuter une ou deux idées qui sont universellement acceptées. Ainsi, par exemple, un cube n'ayant que longueur, largeur et épaisseur peut-il avoir une existence réelle ?
J'objecte qu'un corps solide existe. Toute chose réelle...
C'est ce que croient la plupart des gens. Mais attendez un peu, est-ce qu'il peut exister un cube instantané ?
Je n'y suis pas.
Est-ce qu'un cube peut avoir une existence réelle sans durer pendant un espace de temps quelconque ? Manifestement, tout corps réel doit s'étendre dans quatre directions. Il doit avoir longueur, largeur, épaisseur et durée. Il y a en réalité quatre dimensions, trois que nous appelons les trois plans de l'espace, et une quatrième, le temps. On tend cependant à établir une distinction factice entre les trois premières dimensions et la dernière, parce qu'il se trouve que nous ne prenons conscience de ce qui nous entoure que par intermittence, tandis que le temps s'écoule, du passé vers l'avenir, depuis le commencement jusqu'à la fin de votre vie.
Ça, très clair, vraiment.
Or, n'est-il pas remarquable que l'on néglige une telle vérité ? Voici ce que signifie réellement la quatrième dimension. Beaucoup de gens en parlent sans savoir ce qu'ils disent. Ce n'est qu'une autre manière d'envisager le temps. Il n'y a aucune différence entre le temps, quatrième dimension, et l'une quelconque des trois dimensions de l'espace, sinon que notre conscience se meut avec elle. Mais quelques imbéciles se sont trompés sur le sens de cette notion. Vous avez tous eu ce qu'ils ont trouvé à dire à propos de cette quatrième dimension ?
Non, pas moi.
Simplement ceci. L'espace, tel que nos mathématiciens l'entendent, est censé avoir trois dimensions qu'on peut appeler longueur, largeur et épaisseur, et il est toujours définissable par référence à trois plans, chacun à angle droit avec les autres. Mais quelques esprits philosophiques se sont demandé pourquoi exclusivement trois dimensions ? Pourquoi pas une quatrième direction à angle droit avec les trois autres ? Et ils ont même essayé de construire une géométrie à quatre dimensions. Le professeur Simon Newcomb exposait celle-ci il y a 4 ou 5 semaines à la Société mathématique de New York. Vous savez comment, sur une surface plane qui n'a que deux dimensions, on peut représenter la figure d'un solide à trois dimensions. À partir de là, ils soutiennent que, en partant d'images à trois dimensions, ils pourraient en représenter une à quatre s'il leur était possible d'en dominer la perspective. Vous comprenez ?
Je pense que oui. Oui, je crois que j'y suis, maintenant.
Bien. Il n'y a pas de raison de vous cacher que depuis un certain temps, je me suis occupé de cette géométrie des quatre dimensions. J'ai obtenu quelques résultats curieux. Ah, par exemple, voici une série de portraits de la même personne, à 8 ans, à 15 ans, à 17 ans, un autre à 23 ans, et ainsi de suite. Ils sont évidemment les sections, pour ainsi dire, les représentations sous trois dimensions d'un être à quatre dimensions qui est fixe et inaltérable.
Mais... si le temps n'est réellement qu'une quatrième dimension de l'espace, pourquoi l'a-t-on considéré et le considère-t-on encore comme différent ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous mouvoir ça et là dans le temps, comme nous nous mouvons ça et là dans les autres dimensions de l'espace ? Il vous est impossible de s'éloigner du moment présent.
Mon cher ami, c'est là justement ce qui vous trompe. C'est là justement que le monde entier est dans l'erreur. Nous nous éloignons incessamment du moment présent. Nos existences mentales, qui sont immatérielles et n'ont pas de dimension, se déroulent au long de la dimension du temps avec une vélocité uniforme, du berceau jusqu'à la tombe, de la même façon que nous voyagerions vers le bas si nous commencions nos existences 50 km au-dessus de la surface de la Terre.
Mais la grande difficulté est celle-ci. Vous pouvez aller de ci, de là, dans toutes les directions de l'espace, mais vous ne pouvez pas aller de ci, de là, dans le temps.
C'est là, justement, le germe de ma grande découverte. Mais vous avez tort de dire que nous ne pouvons nous mouvoir dans tous les sens du temps. Par exemple, tenez, si je me rappelle très vivement quelque incident, je retourne au moment où il s'est produit. Je suis distrait, j'ai l'esprit absent comme vous dites. Je fais un saut en arrière pendant un moment. Naturellement, nous n'avons pas la faculté de demeurer en arrière pour une longueur indéfinie de temps, pas plus qu'un sauvage ou un animal ne peut se maintenir à 2 mètres en l'air. Mais l'homme civilisé est à cet égard mieux pourvu que le sauvage. Et il peut s'élever dans un ballon en dépit de la gravitation. Et pourquoi ne pourrait-il espérer que finalement, il lui sera permis d'arrêter ou d'accélérer son impulsion au long de la dimension du temps, ou même de se retourner et de voyager dans l'autre sens?
Oh, ça par exemple, c'est...
Pourquoi pas?
C'est contre la raison.
Quelle raison?
Vous pouvez, par toutes sortes d'arguments, démontrer que le blanc est noir et que le noir est blanc, mais vous ne me convaincrez pas.
Peut-être bien, mais vous commencez à voir maintenant quel fut l'objet de mes investigations dans la géométrie des 4 dimensions. Il y a longtemps que j'avais une vague idée d'une machine...
Pour voyager à travers le temps.
...qui voyagera indifféremment dans toutes les directions de l'espace et du temps, au gré de celui qui la dirige. Mais j'en ai la vérification expérimentale.
Dolphins can swim.